Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce soir, nous allons commencer une série intitulée « L'armée invisible » qui parle des anges. Et je n'ai pas vraiment besoin d'aller très loin ce soir, parce que nous pouvons tout simplement le faire sans difficulté. Ce message est un de ceux qui est comme des liens entre les saucisses attachées, vous savez. Vous pouvez couper n'importe où et reprendre où vous voulez pour avoir quand même quelque chose de complet. Ainsi, il se compose de plusieurs parties qui tiennent debout toutes seules selon les besoins parce que fondamentalement c'est théologique et nous allons traiter des sujets théologiques. Ce soir, nous allons commencer par étudier un premier message sur les anges. Et nous verrons notamment les pieux, les bons, les saints, les anges élus, comme on les appelle dans les Écritures, en opposition avec les mauvais anges déchus, connus généralement en tant que démons. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, et récemment dans notre étude de Jude, vous vous en souvenez, nous nous sommes profondément impliqués dans la compréhension de l'organisation en étudiant la nature des anges déchus, et donc nous voulons regarder et au moins consacrer un temps égal aux saints anges dans cette série. Camille Flammarion a dit ceci, et je pense que cela pourrait vous aider à avoir une idée de ce que signifie l'espace sans fin. Alors, je comprends que toutes les étoiles qui ont déjà été observées dans le ciel, des millions de corps lumineux, des soleils de toute grandeur et de tout degré de luminosité, des systèmes solaires, des planètes et des satellites qui, par des millions et des centaines de millions, se succèdent dans le vide autour de nous, que tout ce que les langues humaines ont désigné par le nom de l'univers ne représente pas dans l'infini plus qu'une île, pas plus qu'une ville, en considérant la population. Dans cette ville d'un empire sans limite, notre soleil et son système représentent une maison, une seule maison parmi des millions d'habitants. La Terre est une pièce dans cette maison solaire. Fin de citation. C'est une chose stupéfiante de réaliser l'immensité de l'espace. Souvent, on me demande, croyez-vous que les êtres existent dans d'autres endroits que la Terre? Et ma réponse est toujours, oui, bien sûr, l'univers a un trafic d'êtres qui le traverse dans tous les sens. La question suivante qui vient habituellement est « Oh, vous croyez aux ovnis ?» Oui, je crois aux objets volants non identifiés, non pas tourbillonnant autour de la Terre comme des espèces de frisbees glorifiés. Je crois que la Bible dit qu'il y a des êtres qui occupent l'univers, littéralement des millions d'entre eux, remplissant le vide autour de nous. Leur nombre est incalculable, et ils vivent dans la sphère céleste. Ce sont des êtres extraordinaires, et depuis la création de l'homme, ils se sont mêlés dans les affaires humaines. Par exemple, dans Hébreux 13, au verset 2, il est dit « N'oubliez pas l'hospitalité. Il en est qui, en l'exerçant, ont à leur insu logé des anges. L'un des hommes les plus uniques qui n'ait jamais vécu est un homme dont je relisais la biographie cette semaine parce qu'il touche mon cœur à chaque fois que je la lis. C'est John Patton, missionnaire aux Nouvelles-Hébrides. Il raconte l'histoire de certains soins angéliques qu'il a reçus dans sa vie. Il a dit qu'une nuit, des indigènes sauvages ont encerclé sa maison. Ils dansaient frénétiquement et sautaient de haut en bas dans la jungle, désireux de tuer John et sa femme. Eh bien, ils se sont mis à genoux, se rendant compte qu'il était impossible de se protéger contre ces cannibales sauvages. Et ils ont prié. Peu après, les assaillants ont tous disparu dans la jungle. Ils sont partis. Selon la biographie de Patton, un an plus tard, le chef de la tribu est devenu chrétien, et John lui a demandé à ce moment-là « Qu'est-il arrivé cette nuit, il y a un an, lorsque vos indigènes ont entouré notre petite Apprentice, là, sur le sable, près de la plage, et tout d'un coup ils sont partis ?» Et voici ce qu'a répondu le chef. « Eh bien, à cause de tous ces hommes que vous aviez avec vous, nous sommes partis. » John a dit « Il n'y avait pas d'hommes, juste moi et ma femme. » Le chef a dit qu'il avait vu des hommes monter la garde, des centaines de grands hommes en vêtements brillants, avec des épées dans leurs mains, encerclant totalement la maison. Dieu a-t-il dépêché une légion d'anges pour protéger son serviteur? Ce ne serait pas la première fois. Deux Rois, chapitre 6, nous raconte une chose très intéressante. Deux Rois, chapitre 6, verset 15. L'auxiliaire de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Élisée, ici, a un tas d'ennuis. Le serviteur de l'homme de Dieu, est Élisée. Son serviteur se lève tôt et il sort de la ville. Voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Maintenant, voici une grande armée qui se déplace. Et le serviteur lui dit, « Hélas, mon maître, qu'est-ce que nous pouvons faire? On nous assiège. » Et Élisée répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec eux. Nous avons plus de notre côté qu'eux dans leur armée. » Vous pouvez imaginer la réponse du serviteur, « Ah bon ?» Et Élisée pria et dit, « Seigneur, j'aime cela. Seigneur, je prie, ouvre ses yeux qu'il puisse voir. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme, et il a vu. Vous savez ce qu'il a vu? Voici la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. C'est l'armée invisible, mes amis. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la célèbre histoire du capitaine Eddie Rickenbacker, qui a été laissé pour mort dans l'océan Pacifique, est racontée. Et lui-même l'a répétée à Billy Graham. Pendant des semaines, il était à la dérive dans l'océan. Et vous vous rappelez certainement de cette histoire. Enfin, quand il est revenu, sauvé de la dérive, il a pu partager son histoire. Je le cite. Et cette partie, j'hésiterai à la dire, sauf qu'il y avait 6 témoins qui l'ont vu avec moi. Une mouette est sortie de nulle part et s'est posée sur ma tête au milieu du Pacifique. J'ai levé la main très doucement, les prises et les tuées. Nous l'avons divisée à part égale entre nous. Nous avons mangé tous les morceaux. Rien n'a jamais été aussi bon. Je n'ai aucune explication, sauf que Dieu a envoyé un de ses anges pour nous sauver. Avez-vous lu l'histoire étonnante de la cavalerie blanche à Béthune, en France, en avril 1918? Gwyn Day écrit dans son livre « Le mystère de la parole », édition Moody, 1957. Voici ce qu'il dit. L'histoire de la cavalerie blanche à Béthune est attestée par des milliers d'Allemands et relatée par les paroles d'un officier prussien. La voici, et je cite. « Nous avancions à la tête de notre troupe, qui était d'excellente humeur. » Elle chantait, se balançait, pensant que les Britanniques étaient maintenant vaincus et que tout ce qui restait à faire était d'aller de l'avant sans opposition et capturer Paris. De mon côté était le lieutenant Fritz, et il saisit tout à coup mon bras en disant « Regardez, mon capitaine, il y a un grand nombre d'hommes à cheval s'approchant de Béthune, de l'autre côté. Ils sont vêtus de blanc et montés sur des chevaux blancs. Qui peuvent-ils être ?»« Je ne sais pas, » répondis-je. « C'est peut-être une troupe coloniale britannique. » Nous nous arrêtâmes instinctivement, et nous regardions cette cavalerie vêtue d'uniforme blanc avançant tranquillement à travers la fumée, leur corps clairement encadré par le soleil. Nous avons envoyé des obus qui se brisaient avec des fragments mortifères et éclataient au milieu des rangs avec des collisions fracassantes qui secouaient le sol, ce qui a été rapidement suivi par le bruit des mitraillettes lançant des coups de feu qui les ratissaient jusqu'à ce qu'il semble impossible pour quiconque de survivre. Mais la cavalerie blanche avançait tranquillement vers nous au petit trot, et pas un homme ni un cheval n'était tombé. Sans résistance, contre la marée montante, ils avançaient, et devant eux était leur chef, une belle figure d'homme. À côté de lui, il y avait une grande épée, pas une épée de cavalerie, mais une épée semblable à celle utilisée par les croisades, et sa main tenait maintenant tranquillement les rênes de son grand cheval blanc, qui avançait fièrement en avant. Puis la terreur me saisit, et je me suis retrouvé fuyant ce corps impressionnant de la cavalerie blanche, effrayé, terrifié. Tout autour de moi se trouvaient des troupes d'hommes, autrefois une armée, maintenant une populace, brisée et apeurée, tous fuyant cette vision, mais plus particulièrement ce merveilleux chef de file sur son grand cheval blanc. L'armée allemande est vaincue. Nous avons perdu la guerre, et cela est dû à la cavalerie blanche. Vous dites, qu'est-ce que c'est? Peut-être que le psaume 34, verset 7, peut l'expliquer. Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Vous savez ce que certaines personnes croyaient à propos de cette histoire. Ils croyaient que Dieu avait répondu à la prière du peuple britannique et délivré l'Angleterre. Il avait répondu à la prière en envoyant son armée invisible et donné aux adversaires au moins un aperçu de ses anges. Très possible. Vous voyez, l'univers est occupé par ces créatures, et bien souvent la vision humaine naturelle ne peut pas les percevoir. Ils sont tout autour de nous. Vous savez ce qui est fascinant quand vous commencez à parler de saints anges? les gens sont plus sceptiques que quand vous commencez à parler de démons. Dans une dimension que nous ne pouvons pas comprendre, ils sont là. Einstein a dit « Il est très possible que dans une autre dimension, en ce moment, un train de chemin de fer arrive en plein milieu de cette salle que nous ne pouvons pas percevoir, car il est dans une toute autre dimension. Cette pièce est remplie d'anges. Ils sont tout autour de la salle. Il y a probablement quelques démons autour. Juste parce que nous ne pouvons pas les voir ne signifie pas qu'ils ne sont pas là. Ils existent dans une dimension que nous ne pouvons pas percevoir, mais ils sont là. » John Milton a dit, pas Milton Berle, John Milton a dit, pour assurer que vous compreniez la source. Des millions de créatures spirituelles marchent sur la terre invisible. Des millions. Lorsque la vision naturelle de ce jeune homme dans Deux Rois, chapitre 6, a été transformée, il a vu l'armée invisible, n'est-ce pas? Il l'a vu. Maintenant, en dépit de leur réalité, et il n'y a pas de question sur leur réalité, en dépit de leur réalité, le fait est qu'il y a des millions d'entre eux, et pourtant les gens, pour la plupart, ignorent les saints anges. Vous savez, la perfection et la justice ne sont pas très intéressantes. Nous sommes vraiment beaucoup plus intéressés par les démons que par les saints anges. Et peut-être que c'est une raison pour laquelle nous devons étudier un peu cette question. Nous sommes fascinés par les démons, et je pense que la raison est que nous sommes plus ou moins comme tout le monde dans l'Église. Nous montons sur le sillage de tout ce qui se passe dans le monde. Et le monde a commencé un mouvement occulte. Donc nous avons sauté dans le train en marche et sommes préoccupés par les démons. Mais savez-vous qu'il y a 273 références dans l'Écriture concernant les anges? Maintenant, combien de fois Dieu doit-il dire quelque chose pour que ce soit vrai? Juste une fois. S'il y a 273 références différentes aux anges, je dirais que c'est un trop grand nombre pour l'ignorer, par vous? 273, vous dites? Eh bien, alors pourquoi les saints anges ont-ils été ignorés? Si je devais demander à la plupart des chrétiens que je rencontre, « Dites-moi quelque chose au sujet des anges. » Eh bien, voyons voir. Ils ont des ailes. Ils s'habillent en blanc et ils volent. 273 références. Et nous ne savons pas grand-chose à leur sujet. Vous dites, « Pourquoi pas ?» J'ai essayé de réfléchir un peu à ce sujet et j'ai lu un peu d'histoire. J'ai regardé dans mes vieux livres d'histoire de l'Église pour me faire une idée de ce qui se passe dans l'Église pour nous faire oublier leur existence. Et j'ai trouvé des choses intéressantes. Permettez-moi de vous offrir quelques-unes des raisons pour lesquelles je pense que nous avons ignoré l'étude des saints anges. Premièrement, en tant que réaction contre la spéculation passée. Dans les premières années du développement de la théologie, il y avait beaucoup de théologie spéculative. Vous savez, ils se disputaient au sujet de tout un tas de petites choses vraiment stupides, des aspects fantaisistes de la théologie, et beaucoup d'arguments avaient à faire avec les anges. Dans les premières discussions sur la théologie, ils débattaient sur les anges. Ils se demandaient combien d'anges pourraient se tenir sur la pointe d'une aiguille en même temps, ou si un ange pouvait être à deux endroits à la fois, et, s'il ne pouvait pas, à quelle vitesse pouvait-il voyager? Combien de temps s'est-il passé entre leur création et la chute? Et Rossetti dit dans Dante qu'ils sont tombés 20 secondes après leur création. Je ne sais pas comment ils le savaient. Mais c'est ce qu'il a dit. Ils se sont disputés pour savoir si le péché du premier ange a causé le péché des autres, ou s'ils ont tous péché ensemble. Ils se sont disputés sur combien d'entre eux sont tombés. Cela semble être plus ou moins clair dans Apocalypse 12. Ils se sont disputés pour déterminer si notre atmosphère est le lieu où les anges sont maintenant punis. Ils se sont disputés sur les anges gardiens, et si oui ou non, vous avez un ange gardien personnel à partir du moment où vous vous faites baptiser, quand vous êtes né, ou quand vous avez été conçu. Et tous ces dialogues et toute cette spéculation a provoqué une réaction inverse. Les vrais spécialistes de la Bible ont tourné le dos à l'étude des anges, vous voyez? Parce qu'ils ont réagi contre cette folie. Ils l'ont mise de côté. Les responsables sérieux ont évité l'étude de ce sujet. Une deuxième raison pour laquelle l'étude des saints anges a souffert au cours des derniers siècles est à cause de la vénération des anges par l'Église catholique romaine. Et le protestantisme a réagi contre cela. Saviez-vous qu'avec l'adoration de Dieu et l'adoration du Christ, l'Église catholique promeut l'adoration des saints? La vénération et l'adoration signifient la même chose. Mais saviez-vous aussi que l'Église catholique a toujours promu, et ce depuis le IVe siècle, l'adoration des anges? Et cela a provoqué une réaction. Par exemple, Ludwig Ott dit, dans son livre de textes sur la théologie catholique, il est catholique, et il écrit pour les catholiques, il dit, l'adoration des anges par les hommes est justifiée. La décision du Conseil de Trente, qui nous apprend à invoquer et louer les saints, peut également être appliquée aux anges. Et ils adorèrent les anges. Et l'ange numéro un qu'ils adorent est Michel. En fait, saviez-vous que dans le calendrier catholique, il y a un événement appelé la fête des anges. Et la fête des anges a lieu le 29 septembre. Deux célèbres et grandes églises ont été construites pour glorifier et honorer Michael. L'une a été construite par Constantin à quelques kilomètres de Constantinople ou Istanbul et l'autre à Rome. Maintenant, savez-vous que, avant le IVe siècle, quand l'Église romaine voulait introduire l'adoration des anges, cette pratique existait déjà, mais c'était considéré comme une hérésie. Dans Colossiens 2, verset 18, et nous allons regarder Colossiens dès que nous aurons terminé avec cette série en tant qu'introduction dans Colossiens 2, verset 18, Paul les met en garde contre l'adoration des anges. Voici précisément ce qui est arrivé. Eh bien, comme réaction à l'adoration des anges, l'Église protestante, en quelque sorte, ne voulait pas être impliquée dans tout cela. Et il y eut donc une réaction contre, une réversion. Il y a une troisième raison pour laquelle je pense que l'étude des anges a souffert. Et voici un peu plus d'histoire pour vous. J'appelle cela une réaction au paganisme. Une réaction à la spéculation. Une réaction contre l'Église catholique romaine et une réaction au paganisme. Savez-vous que dans presque toutes les religions, et je ne suis même pas sûr de connaître un système de religion qui n'entre pas là-dedans, dans tous les systèmes de religion que je connais, et tous ceux que j'ai pu étudier historiquement, la croyance aux anges en fait partie. Savez-vous que dans l'Orient, les Chinois, vous le savez, ils ont les toits pointus, les toits de pagode, mais savez-vous pourquoi? Pour que quand les démons glissent sur le toit, ils soient piqués aux fesses, et ils ne reviennent plus. Ils croient aux êtres spirituels, c'est vrai. Ils croient aux êtres spirituels, et vous voyez d'autres configurations étranges sur des toits. Et c'est pour empêcher les démons de se poser. Les gnostiques, par exemple, croyaient aux éons, aux démons, aux demi-dieux. Il y avait des génies dans diverses religions, des sous-dieux, des anges. Des philosophes païens ont parlé d'êtres spirituels. Socrate, par exemple, fait référence à un bon démon. Il l'appelait un bon démon qui a pris soin de lui. Et donc le paganisme était chargé avec l'adoration de tous les différents esprits multiples, et sous-dieux, et demi-dieux, etc., etc. Et avec toute cette confusion, l'Église s'est retirée pour se concentrer, devinez sur qui? Le Christ, en laissant tomber tout ce qui touchait aux anges, parce que cela portait à confusion, à cause des pratiques du paganisme. Une quatrième cause. Je pense que la négligence de l'étude des anges est l'âge du rationalisme et de la science. Vous savez, le monde est entré dans ce qui est connu comme la révolution industrielle et tout a pris un tournant vers la science. Tout est devenu rationaliste au XVIIIe siècle et l'esprit de l'homme est devenu fondamentaliste. Accepter le fait qu'il y avait des esprits flottants partout n'était pas raisonnable et donc tout cela a été mis de côté. L'âge du rationalisme n'a tout simplement pas permis cela. C'est seulement depuis que l'âge du rationalisme a pris fin et nous sommes maintenant dans l'ère de quoi ? L'existentialisme ou de l'expérience, que les gens ont commencé à permettre aux démons de revenir dans leur conscience ou leur compréhension, et les anges vont venir avec eux. Et je pense à une cinquième chose, dans un sens très moderne, qui a détourné l'attention du peuple chrétien des anges, les saints anges, et c'est le mouvement occulte qui nous préoccupe avec les démons. Maintenant, je vais vous donner l'arrière-plan pour vous donner une idée de la raison pour laquelle je sens qu'il y a une ignorance des saints anges. Il est très peu décrit sur les anges. Je remarque que Billy Graham a un nouveau livre sur le sujet, et c'est le premier depuis une longue période. Vous devez aller très loin en arrière pour en trouver un sur les anges. Vous pouvez chercher un livre qui a été écrit il y a des années et des années, et trouver le vieux livre de Gaebelin sur les anges de Dieu, et quelques petites choses dans les théologies systématiques. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je pense donc que nous devrions étudier les anges. 263 fois, Dieu se réfère à eux. Ils sont dignes de notre attention, ne pensez-vous pas? Et au moment où nous en avons terminé avec cette étude, vous allez avoir une sensibilité totale à tout un univers plein de nouvelles créatures que vous n'avez jamais vraiment compris avant, mais avec qui vous allez passer votre éternité. Donc, vous devriez aussi bien apprendre à les connaître. Vous allez être mêlés avec eux pour toujours, et cela n'a aucun sens d'aller là-bas et de dire « Qui êtes-vous ? » Ils étaient là avant vous, de toute façon. Maintenant, vous dites, quel est l'avantage d'une telle étude? Eh bien, je pense que l'avantage va venir de beaucoup, beaucoup d'angles. Premièrement, vous allez avoir une nouvelle vision de la puissance créatrice de Dieu, une nouvelle vision du contrôle souverain énorme de Dieu sur le monde et l'univers. Votre appréciation de Dieu croîtra quand vous verrez comment il a créé cette armée angélique. Et quand vous commencerez à voir comment il fonctionne, vous aurez une toute nouvelle vision de qui est Dieu. Deuxièmement, je pense que vous serez ravis de découvrir que tous ces anges, ces saints anges que Dieu a envoyés, non seulement pour le servir, mais pour nous servir, que ces anges sont là pour nous aider. C'est excitant. C'est probablement la chose la plus épatante. Et je pense que c'est ce que nous allons étudier la semaine prochaine ou la semaine suivante. Je ne suis pas encore sûr. Donc, ça va être utile. Je pense que la troisième chose qui est importante dans cette étude est le fait que cela va nous pousser à étudier les Écritures, et c'est bon, n'est-ce pas? Parce que tout ce que nous savons à leur sujet est dans la Bible. Maintenant, évidemment, nous ne pouvons pas étudier les 273 références. Nous allons donc devoir choisir, mais ça va nous conduire dans la parole de Dieu. Dans son livre « Les anges, les agents secrets de Dieu », Billy Graham partage cette déclaration utile. « Je suis convaincu que ces êtres célestes existent, qu'ils fournissent une aide invisible pour nous. Je ne crois pas aux anges parce que quelqu'un m'a parlé d'une visite spectaculaire d'un ange, aussi impressionnant que ces rares témoignages peuvent être. Je ne crois pas aux anges parce que les ovnis sont étonnamment ressemblants aux anges dans certaines de leurs apparitions signalées. Je ne crois pas aux anges parce que les experts en télépathie font que le royaume du monde de l'esprit semble de plus en plus plausible. Je ne crois pas aux anges à cause de l'importance soudaine à l'échelle mondiale sur la réalité de Satan et des démons. Je ne crois pas aux anges parce que j'en ai vu, parce que ce n'est pas le cas. Je crois aux anges parce que la Bible dit qu'il y a des anges, et je crois que la Bible est la vraie parole de Dieu. Voilà une déclaration utile, n'est-ce pas? Et cela l'amène tout droit là où elle doit être. Nous croyons aux anges parce que la Bible les mentionne 273 fois. Et quand notre étude sera terminée, je sens vraiment que vous allez avoir une connaissance significative et claire de ces belles créatures merveilleuses, puissantes, saintes, qui servent Dieu et qui nous servent aussi. Maintenant, je veux que nous regardions essentiellement trois choses. N'hésitez pas à prendre des notes. Ce n'est pas une critique, mais c'est important de garder tout cela à l'esprit, alors que nous continuons. Nous allons découvrir qui ils sont, ce qu'ils sont, et comment nous devons répondre. Point numéro 1. L'existence des anges. Regardons tout d'abord qui ils sont. Nous allons tout simplement commencer ce sujet, puis nous le reprenons la prochaine fois. L'existence des anges. Maintenant, il y a toujours eu des gens qui ne croient pas aux anges. Vous dites, même dans les temps bibliques? Eh oui. Vous voulez dire même les gens qui connaissaient l'Ancien Testament? Oui. Il y avait des dirigeants en Israël qui ne croyaient pas aux anges. Écoutez, acte 23, verset 8. Je vais le lire pour vous. Les Sadducéens, en effet, disent qu'il n'y a pas de résurrection. Voilà pourquoi ils étaient si tristes, vous voyez. Il n'y a pas de résurrection. J'ai pensé que c'était assez bon. Il m'a fallu 3 jours pour le réaliser. D'accord? Les Sadducéens, vous ne les oublierez jamais, je vous le promets. Ils disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit. Maintenant, là étaient les rationalistes. De l'autre côté, les matérialistes qui niaient l'existence des anges. Avaient-ils raison? Non, ils avaient tort. Vous dites, comment pouvaient-ils être juifs? Je veux dire, comment est-ce possible? Eh bien, ils étaient des juifs libéraux. Ils n'ont pas accepté la résurrection, et l'Ancien Testament enseigne ça. Même le plus ancien livre de l'Ancien Testament l'enseigne. Job dit, « Après que ma peau aura été détruite, de ma chair je verrai Dieu. Moi, je le verrai. Mes yeux le verront, et non pas quelqu'un d'autre. Les profondeurs de mon être s'épuisent au-dedans de moi. » Et il y avait une connaissance de la résurrection. Les Sadducéens sont morts en ayant tort. Il y a beaucoup trop de preuves dans la parole de Dieu pour dire qu'il n'y a pas d'anges. Il y a des anges. En fait, l'Ancien Testament présente les anges comme des êtres personnels, qui sont les messagers et les ministres de Dieu. Vous avez lu l'Ancien Testament, et je l'ai lu dans le cadre de notre lecture pour cette année, et tissé tout au long du récit de l'Ancien Testament. Nous voyons des anges. Partout. Ils sont partout. Si vous deviez enlever tous les anges de l'Ancien Testament, ce serait du gâchis. Vous auriez des événements inexplicables. Vous auriez des trous béants dans le récit. Vous auriez des événements sans possibilité de se produire. Vous auriez des problèmes sans solution si vous supprimiez les anges. Ils sont trop présents dans l'Ancien Testament. Ils sont partout. Et vous savez quoi? Vous mettriez Dieu dans le même bateau avec tout le monde. Dieu, Aurait-il des hallucinations comme tous ceux qui pensaient avoir vu des anges? Parce que s'il n'y avait pas d'anges, qui sont les personnes que Dieu envoyait tout le temps? Qu'en est-il du Nouveau Testament? Si vous regardez le Nouveau Testament, vous aurez à le rejeter totalement. Qui annonce la naissance du Christ? Qui a dit au berger où aller? Qui est venu à Jésus lors de sa tentation, après son jeûne de 40 jours, pour le nourrir, si les anges n'existent pas? Qui est venu à la tombe et a annoncé la résurrection? Qui va venir pour rassembler les élus des quatre coins du monde? Qui a libéré Pierre et Jean? Je veux dire, comment pourrait-il sortir d'une prison avec des verrous? La porte fermée, le garde toujours là? Les anges sont venus ouvrir. Des interventions merveilleuses faites par des êtres surnaturels seraient réduites à des mensonges dans le Nouveau Testament. Il n'y aurait pas de guerre spirituelle dans la vie chrétienne parce qu'il n'y aurait pas d'anges. Il n'y aurait pas de démons. Il n'y aurait pas Satan. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de nous concentrer sur quelque chose qui n'est pas là. Christ aurait seulement imaginé son conflit avec Satan? Alors lui aussi a été trompé. Et lisez le livre de l'Apocalypse, sans anges. Regardez toutes les têtes de chapitre. Les anges sont partout. Dès le début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, il y a des anges partout. Je sens vraiment que le plus grand témoignage qui prouve l'existence des anges est le témoignage de Jésus-Christ. Savez-vous cela? Parce que je crois ce qu'il dit. Et Jésus, dans son propre enseignement, a parlé des anges. Dans Matthieu 22, il a dit « Ils sont comme les anges dans le ciel ». Il parlait donc des anges. Dans Matthieu 24, il a parlé des anges à nouveau. Dans Matthieu 26, il a parlé des anges. Dans Matthieu 18, il a parlé des anges. Et ce n'est que quelques exemples, car il a parlé des anges des dizaines de fois. Les anges existent. Je le crois parce que la Bible le dit, mais je crois aussi parce que je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés. J'en ai rencontré qui sont tombés, et je le savais. Et j'en ai rencontré qui sont saints, mais je ne savais pas les percevoir. Je sais qu'ils sont là. La Bible le dit. Et j'ai rencontré Satan. Vous aussi, n'est-ce pas? Et ses démons. Et donc l'existence des anges est assez bien établie. Deuxièmement, regardons l'origine des anges. À une certaine époque, il n'y avait pas d'anges. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Les anges ont été quoi? Ils ont été créés. Ce sont des créatures. Colossiens 1, verset 16 dit « Car c'est en lui, en parlant du Christ, que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. » Maintenant, regardons la suite. Le visible est quoi? L'invisible. Maintenant, il y a des choses créées dans le ciel. Vous dites, eh bien, quelles sont-elles? Des anges, vous dites. Eh bien, je peux comprendre les choses sur la terre, car nous y sommes. Je peux comprendre les choses qui sont visibles, qui sont autour de nous. Mais les choses invisibles dans le ciel, que sont-elles? Ce sont des anges. Et voici quelques noms pour les anges. Des trônes, des dominations, des principautés, des pouvoirs. Toutes choses ont été créées par lui. Pour lui, il a créé les anges, et ils sont appelés par des noms différents, des trônes, des dominations, des principautés, les pouvoirs. Ils sont aussi appelés les autorités. Ce sont les noms des anges, les rangs des anges dans l'armée invisible. Et l'armée invisible est organisée. Je vous le répète, cette armée est super organisée. Tout est catalogué et classé. Ils ont été faits par Dieu. Il est marqué là, dans ce verset de Colossiens 1, verset 16, qu'ils ont été créés par le Seigneur Jésus-Christ. Retournons dans Néhémie, chapitre 9 et verset 6, car je vais vous montrer quelques passages. Néhémie 9, 6. Je le lis. « C'est toi, Seigneur, toi seul. » Maintenant, écoutez bien. « Qui a fait les cieux des cieux et toute leur armée. » Et il y a l'idée que Dieu ait créé non seulement le ciel, mais ceux qui l'occupent, les anges, la terre et tout ce qui s'y trouve. Tu as fait le ciel et tout ce qui s'y trouve. Tu as fait la terre et tout ce qui s'y trouve. Voilà, tu as créé des créatures angéliques et des créatures terrestres. Maintenant, il est clair, à partir de seulement ces passages, que les anges ont été créés. Une autre indication, je pense, est dans 1 Timothée. Ne le cherchez pas, je vais simplement le mentionner. 1 Timothée 6, verset 15 dit « Le roi de ceux qui règnent en roi, et le seigneur de ceux qui dominent en seigneur, lui qui seul possède l'immortalité. » Qui est le seul être immortel qui existe? Dieu. Et si Dieu est le seul qui possède l'immortalité, alors les anges ne l'ont pas, n'est-ce pas? Ils ont été créés. Ils devaient être créés. C'est 1 Timothée 6, versets 15 et 16. Maintenant, psaume 148, verset 2. « Louez-le, vous tous ses messagers. Louez-le, vous toutes ces armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, ciel du ciel. Et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Ce sont les nuages. Qu'ils louent le nom du Seigneur. Regardez. Car il a donné un ordre, et ils ont été créés. Les anges, dans le verset 2, ont été créés par le commandement de Dieu, comme tout le reste, comme les nuages et la terre, et le soleil et la lune, et ainsi de suite. Vous dites, John, quand ont-ils été créés? Eh bien, je ne sais pas quand. Ils ont été créés apparemment avant le début du temps. Ils ont été créés avant l'homme et la terre, parce qu'ils étaient tombés avant Genèse, chapitre 3, n'est-ce pas? Afin que Satan puisse être déjà dans le jardin pour tenter Ève. Mais dans Job 38, verset 7, il est dit « Alors qu'ensemble les étoiles du matin criaient de joie, et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Maintenant, qu'est-ce que les anges chantaient? Que criaient ces anges? Je vais vous dire ce qu'ils criaient. » Verset 4 « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu es intelligent. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Ou qui a tendu sur elle le cordeau? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Qui en a posé la pierre angulaire, alors qu'ensemble les étoiles du matin criaient de joie? Vous voyez, vous avez les anges. Les armées angéliques chantaient et criaient à la création, de sorte qu'ils ont dû être créés avant la création, de sorte qu'ils sont antérieurs à la terre. Or, il n'y avait pas de procréation parmi les anges. Il n'y a pas de mère ni de père chez les anges, et tout un tas de petits anges. Ils ont tous été directement créés par Dieu. Ils n'ont pas la capacité de se reproduire. Dans Matthieu, chapitre 22, quand notre Seigneur a discuté de cette question, il a répondu tout simplement de cette façon. « Vous vous égarez, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Les anges de Dieu dans le ciel ne se marient pas, et ils ne sont pas donnés en mariage. Voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas de procréation. Dieu commande instantanément. Pensez-y, mes amis. » Dieu commande instantanément et des millions de créatures sont créées, chacune créée de façon indépendante. Ils ne se reproduisent pas, il n'y a pas d'augmentation du nombre, ils ne meurent pas, donc il n'y a pas de diminution. Le seul changement est venu dans Apocalypse 12 au verset 4, où il est dit « Apparemment un tiers de ces anges sont tombés et sont devenus des démons, mais ils vont tous vivre éternellement. Satan vint du ciel comme un dragon, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. » Il les jeta sur la terre. Certains en enfer, certains dans le ciel, les anges étonnants créés instantanément par Dieu, et chacun créé indépendamment l'un de l'autre. Vous savez ce que je crois? Je crois qu'ils sont comme des flocons de neige. Je ne crois pas que deux se ressemblent. Les gens veulent toujours dire, « Eh bien, à quoi ressemblent les anges ?» Je suppose que chaque fois que vous voyez une scène, avez-vous déjà remarqué cela, ou tout type de tableau? Tous les anges se ressemblent. Tous les anges se ressemblent. Vous voyez toute une série d'anges. Ils sont tous comme pan, 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 comme un tampon d'ange en caoutchouc. Ils se ressemblent tous. Comme Dieu a dit, « D'accord, je vais prendre 1 million de cette chose, et voilà. Pan, ils y étaient tous. Tous les chérubins, pan, ils sont tous sortis pareils. Non, je ne crois pas cela. Et une autre chose que je crois, et nous allons mieux comprendre en faisant cette étude, je crois que, dans un sens, ils ont tous été créés à l'image de Dieu. Ils ont été créés avec des capacités que nous comprenons, comme l'intelligence et les émotions et la volonté. Et ils ont été créés différents les uns des autres. Je crois que Dieu, par un commandement de sa bouche, a créé des millions de créatures qui occupent l'univers, et chacun d'entre eux est différent de tous les autres. Écoutez, si Dieu le fait avec des flocons de neige, il peut le faire avec des anges, des millions d'entre eux. Ils sont tous uniques. Les gens disent... « Eh bien, combien étaient-ils? Combien y en a-t-il? Ils sont pareils. Ils sont là depuis longtemps. Ils ont vu beaucoup de choses. Combien étaient-ils quand Dieu les a créés? Combien y en a-t-il maintenant? Le même nombre. Il est difficile de savoir combien. La Bible ne nous dit pas combien. Il y a beaucoup de discussions et de spéculations à ce sujet. Permettez-moi de vous donner quelques réflexions cependant. À la naissance du Christ, il a dit... Là est apparue une multitude de l'armée céleste, chantant et disant. Il y avait une multitude. En plus, ils n'étaient pas tous là. Certains d'entre eux étaient là. Dans Luc 2, à son arrestation, Jésus dit, « Si je voulais, je pourrais appeler qui ? 12 légions ? » Dans l'Ancien Testament, un ange a abattu 185 000 personnes. Lorsque ces indigènes ont couru pour se cacher dans la jungle, ils ont bien fait. Une seule chose. Vous ne voulez pas vous battre contre les anges de Dieu. Ils sont si puissants. Maintenant, certains disent, « Eh bien, mon petit, combien de légions existent ?» Je ne sais pas combien il y a de légions. Maintenant, d'autres personnes ont proposé une possibilité intéressante. Dans Matthieu 18, au verset 10, Jésus parle des siens. Combien il les aime et comment il prend soin d'eux. Il dit une chose intéressante. Prenez garde, Matthieu 18, verset 10, et il parle des petits. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. Voici une phrase intéressante. Leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. Ne méprisez pas ces enfants parce que les anges qui leur sont assignés gardent des rapports avec Dieu. Et ils racontent ce qui se passe. N'est-ce pas intéressant? Vous voulez dire que tout le monde a un groupe d'anges qui leur est assigné? Eh bien, si c'est vrai, certains disent qu'il faudrait au moins autant d'anges qu'il y a de gens. Et si nous parlons au pluriel, il doit y avoir plus d'anges que de gens. Cela voudrait dire qu'il y en a des milliards. Certains disent « Non, il y a autant d'anges qu'il y a d'étoiles ». Vous dites alors « Combien y a-t-il d'étoiles ?» Cela n'aide pas du tout. Nous savons qu'il y a au moins des milliards, au moins des milliards. Vous dites « Pourquoi les aurait-il assimilés aux étoiles ?» Parce que souvent les termes sont utilisés de façon interchangeable. On les appelle les armées célestes, et parfois les étoiles sont appelées les armées célestes, et ces expressions sont utilisées de manière interchangeable. Mais il y a un verset qui nous aidera peut-être à estimer le nombre. Je ne pense pas que tous les anges soient représentés. Mais cela nous donnera une idée. Apocalypse 5. Maintenant réfléchissez un peu, car cela fait beaucoup d'anges. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Maintenant, est-il dit que j'ai entendu la voix de tous les anges? J'ai entendu la voix de la plupart des anges. J'ai entendu la voix de presque tous les anges. Non, juste beaucoup. Juste quelques-uns, vous le savez, certains d'entre eux. Et combien étaient-ils? Leur nombre était des dizaines de milliers de fois 10 000, des milliers de milliers. Et vous dites, eh bien, est-ce le nombre total ou quel pourcentage? Je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Et si chaque petit enfant a un groupe qui lui est assigné, il y en a beaucoup, parce qu'ils ont d'autres choses à faire, à part prendre soin des petits-enfants. Je crois qu'il y a des milliards d'anges partout dans l'univers. Dans Hébreux 12, au verset 22, nous laissons tomber le sujet. Voici ce qu'il dit. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et de dizaines de milliers d'anges, trop nombreux pour être quoi? Dénombrés? On ne peut même pas les compter. Ils sont trop nombreux. Pensez-y, pensez-y. Des millions d'anges, beaux, puissants, exécutant les ordres de Dieu, se déplaçant à grande vitesse à travers les cieux et la terre. » Mieux organisés que les armées de César, les armées d'Alexandre le Grand, de Napoléon, de Patton, ou de quelqu'un d'autre, des chérubins, des séraphins, des créatures vivantes, des trônes, des dominations, des principautés, des autorités, des pouvoirs, l'archange Michael, le guerrier, le champion, Gabriel qui les soutient. Toute cette armée fantastique d'êtres angéliques, appelés dans les Écritures « fils de Dieu ». Dans le psaume 89, verset 6, appelé « fils de Dieu » dans Job, appelé « Dieu » car ils sont littéralement attachés au niveau divin et surnaturel, appelé « saint » dans le psaume 89, ils sont appelés « étoiles » dans Job 38, verset 7, appelé « prince » dans Daniel 10, ces êtres fantastiques, et toute cette puissante armée créée par Dieu dans une fraction de seconde, Dieu les a fait exister. Quel Dieu créateur! Vous étudiez la Bible et vous les trouverez dans le troisième ciel. Le troisième ciel où Dieu habite. Vous les trouverez dans le deuxième ciel, traversant l'univers. Vous les trouverez dans le premier ciel, qui est l'atmosphère de la terre. Ils sont dans chacune des couches de la révélation de Dieu. Parfois, ils sont devant le trône de Dieu. Dans Apocalypse 4 et 5, ils sont près du trône de Dieu. Dans Daniel 10, ils sont en transit à travers l'univers. Et de nombreuses fois, ils sont sur la terre. Nous les voyons tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Les anges sur la terre se mêlant avec les hommes, des êtres fantastiques. Je vais terminer par quelques réflexions. Troisièmement, la nature des anges. Laissez-moi rapidement vous parler de cela. Qu'est-ce qu'ils aiment? Premièrement, ils sont personnels. Vous dites, vous voulez dire qu'ils ne sont pas juste une sorte de robot surnaturel? Non, ce sont des personnes. Ils ont de la personnalité. Alors vous poursuivez. Eh bien, quels sont les attributs qui composent leur personnalité? L'intelligence, l'émotion et la volonté. Vous dites, les anges sont intelligents? Ils sont intelligents, bien sûr. Dans Ézéchiel 28, au verset 12, le prophète, en décrivant Lucifer, le fils du matin, qui était le plus élevé des anges, il dit « Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Les anges sont intelligents. » Dans Matthieu 28, au verset 5, mais l'ange dit aux femmes « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. » Cet ange a compris ce qu'elle faisait. Il était intelligent. L'intelligence communique. Il a des conversations, il parle. Dans Apocalypse 17, il est très clair que les anges comprennent le plan de Dieu, ils le déplient. Alors, l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint parler avec moi. Il me dit « Viens, je te montrerai ». Voilà l'intelligence, la capacité de communiquer. Maintenant, ils ne savent pas tout. Ils ne sont pas omniscients comme Dieu. En fait, dans 1 Pierre au chapitre 1 et au verset 12, il est dit que l'Évangile est quelque chose que les anges désirent comprendre, plonger leur regard. Il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Il y a certaines choses qu'ils n'ont pas encore apprises. Mais ils sont intelligents. Leur intelligence est limitée, mais ils sont intelligents. Deuxièmement, ils ont des émotions. Je sais qu'ils ressentent de l'émotion parce que dans Job 38 au verset 7, il est dit qu'ils chantaient ensemble. Et le chant est une réponse à l'émotion, n'est-ce pas?
Ils expriment de la joie.
Savez-vous que les anges se réjouissent quand une seule âme vient à Christ? Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ils éprouvent de la joie. L'adoration est une autre émotion, je pense. Et les anges, par exemple, dans Ésaïe 6, que faisaient-ils? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les jambes, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils s'appelaient l'un l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint ». Voilà une expression d'adoration, et c'est une émotion. Les anges ressentent des émotions, et c'est un trait de personnalité. Et troisièmement, ils ont la capacité d'autodétermination ou de volonté. Dieu fait appel à leur volonté. Par exemple, dans Hébreux 1 au verset 6, et encore quand il apporte le premier-né dans le monde, il dit « Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui ». Il dit « Les anges adorent l'enfant qui est né. Le fait même qu'il invite les anges à faire quelque chose indique qu'ils avaient la volonté de le faire. » En fait, voilà comment Satan a eu des ennuis, n'est-ce pas? « Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais » se trouve 5 fois dans Ésaïe 14. Ils ont donc des personnalités. Ils ne sont pas tout simplement des esprits éthérés, aériens, flottant autour des cieux, sans personnalité, une sorte de robot visqueux. Ce sont des personnes, ils ont de la personnalité. Chacun est différent des autres, ils sont uniques. Mais ils sont différents des hommes, et c'est évident car il est dit dans Hébreux 2 que Christ est devenu un homme, et il a été fait un peu en dessous de quoi? Des anges. Ils occupent un état plus élevé que le nôtre, pour ce temps de toute façon. Un jour, nous allons statuer avec les anges. 1 Corinthiens 6, verset 3 dit que nous allons régner sur les anges. Dans le Christ, nous serons exaltés. Pourquoi?
Parce que nous serons co-héritiers avec le Christ.
Nous serons égaux avec le Christ dans son héritage. Nous sommes dans le Christ. Nous sommes un seul esprit avec le Christ. Donc nous, dans le royaume et dans l'éternité, nous régnerons sur les anges, parce que nous régnerons avec le Christ. Rappelez-vous dans l'Apocalypse. Asseyez-vous avec moi sur mon trône. Mais pour cet âge et pour le moment, nous sommes un peu inférieurs aux anges. Ils sont différents de nous. Maintenant, nous sommes tous les deux des créatures à la fois limitées par le temps et l'espace, à la fois dépendants de Dieu pour l'existence et le bien-être, à la fois responsables devant Dieu et devant lui rendre des comptes. Mais nous sommes quand même différents. Maintenant, savez-vous que leur vie et leur monde est tout aussi impliqué, est tout aussi actif, est tout aussi complexe que le nôtre? Et cela se passe tout autour de nous. La différence est que nous ne pouvons pas les voir, mais ils peuvent nous voir. Ce sont des esprits, et c'est la principale différence. Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs? Et le verset 13 montre qu'il parle des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs? Les gens disent, est-ce que les anges ont des corps? Non, ce sont des esprits. Ils ne disposent pas de corps charnel comme nous. Mais écoutez, est-ce que votre corps est votre personnalité? Non. Votre personnalité est dans votre corps. et les anges sont la personne sans la chair et le sang que nous connaissons. Vous dites, eh bien, ils ont une sorte de chose. En fait, que sont-ils? Sont-ils un drap où vous savez, avec rien en dessous, comme un fantôme? Que sont-ils? Eh bien, vous savez ce que je crois. Je crois qu'ils ont une sorte de capacité localisée. Je pense qu'ils sont quelque chose, qu'ils sont quelque chose en esprit. Ils n'ont pas un corps de chair matériel comme le nôtre, mais ils ont des limites spatiales. Et ne sont pas comme Dieu. Dieu est un esprit, n'est-ce pas? Mais Dieu est partout. Il est omniprésent. Son esprit remplit l'infini. Les esprits angéliques sont en quelque sorte des petits esprits. Et ils sont coincés dans un seul endroit à la fois. Ils peuvent aller dans des endroits, ce qui signifie qu'ils ont une sorte de forme. Ils ont une forme que je ne peux pas voir et percevoir, mais néanmoins ils ont une forme. Ils volent à travers le ciel dans Daniel 9 et 10. Ils chassent là-haut ayant des arguments dans l'espace. Ils vont d'un endroit à un autre. Ils ont aussi des limites dans le temps. Ils sont souvent représentés avec des ailes. Maintenant, je ne suis pas convaincu que ce sont des ailes littérales, mais que ces ailes représentent la vitesse, qu'ils sont des symboles de l'obéissance rapide, que les anges volent pour obéir à la volonté de Dieu, qu'ils sont rapides pour obéir à la volonté de Dieu. Ce n'est pas tellement qu'ils volent littéralement, comme des êtres qui, en leur qualité d'esprit, peuvent se déplacer, mais ils se déplacent rapidement dans l'obéissance à Dieu. Maintenant, je ne sais pas quel genre de forme ils ont, mais je crois qu'ils ont une forme quand même. Et un jour, nous serons en mesure d'aller et dire « Voilà comment ils sont ». Mais je ne sais pas. C'est quand nous serons au ciel. Mais en attendant, je ne sais pas. Vous dites « Eh bien, qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils ont quelque chose comme ça ?» Eh bien, 1 Corinthiens 15, verset 44, me le fait penser parce qu'il dit ceci. « S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. » Oh, un corps naturel et un corps spirituel, eh bien, il doit y avoir un corps spirituel. Alors, ils ne disposent pas d'un corps naturel, donc ils ont une sorte de corps céleste, spirituel. Maintenant, quand ils apparaissent, et parfois Dieu choisit de les laisser se manifester, ils apparaissent toujours comme un homme. Il y a possibilité d'une exception, mais seulement une possibilité. Nous ne disposons pas suffisamment de preuves pour interpréter le passage, pour être sûr. Mais, à toute autre occasion, ils apparaissent toujours dans la forme masculine. Et le pronom masculin est toujours utilisé pour parler d'eux. Alors parfois, ils font, comme dans Genèse 18, vous vous souvenez, et Genèse 19, quand les anges sont venus visiter Abraham, et quand ils sont allés à la ville de Sodome. Là, ils étaient des hommes, des beaux hommes. Ils se sont assis avec Abraham. Ils ont mangé. Ils ont marché. Ils ont parlé. Ils se sont rendus visibles et ont pris une forme visible. Dans Matthieu 8, au verset 3, on parle de l'ange qui est apparu là. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Son visage était comme le soleil, comme la foudre. C'est inhabituel, et parfois ils apparaissent comme des hommes. Parfois ils apparaissent comme des hommes très inhabituels, mais chaque fois qu'ils apparaissent, leur présence produit des effets étonnants. Par exemple, les indigènes dans la jungle, ils se sont enfuis. Les soldats de l'armée allemande dont je vous ai parlé, ils ont été pris de panique. L'agitation mentale est venue sur Marie quand Gabriel a annoncé les nouvelles de la naissance virginale. Elle a été secouée. Lorsque Zacharie a appris par l'ange qu'il allait avoir un fils, il a paniqué, et la terreur saisit son cœur. Luc 1. Les bergers à qui le messager angélique a annoncé la naissance du Christ, nous lisons, ils eurent une grande frayeur. Ils ont paniqué quand ils ont vu ces êtres. Les soldats romains, il est dit dans Matthieu 28, qui ont vu l'ange rouler la pierre, sont tombés et sont devenus comme quoi? Comme les hommes morts quand ils ont vu cet ange. Maintenant, ce sont des êtres différents. Et quand ils sont là, des choses étranges se produisent. Car c'est un voyage dans l'autre monde, pour ainsi dire, quelque chose de très anormal. Eh bien, nous allons en apprendre beaucoup sur ces réalités glorieuses. Prions. Merci, Père, car tu nous as aidés à avoir une petite introduction ce soir à cette foule d'êtres que tu as mis de côté pour te servir et pour nous servir. Je ne sais pas qui sont les anges qui sont attachés à moi, mais je tiens à te remercier pour le ministère qu'ils ont dans ma vie, même inconnu de moi. Et je tiens à te remercier pour l'ouverture de la parole pour nous dans ce domaine, afin que nous puissions mieux connaître le genre de Dieu que tu es et ce que tu fais dans cet univers. Maintenant centré, comme si la terre était la scène dans le plan rédempteur, et que tu as envoyé tes anges pour préparer le terrain. Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.